Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 22 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Paul Gara et je suis accompagné de Hammer.
Bonjour Paul Gara.
Bonjour Hammer, tu vas bien ?
Très bien.
Dormi ?
Oui.
Après cette cérémonie
Un petit peu longue et protocolaire, c'est vrai.
Un petit peu, on va dire ça comme ça, on reste diplomate. Et ce matin, on commence juste à l'heure, just in time, et nous recevons Florent de Nuts Publishing. Bonjour Florent.
Bonjour Paul.
Comment vas-tu ?
Bien, bien.
Tu t'es remis aussi de la soirée d'hier ? Tu as survécu aux deux heures, plus de deux heures de...
Oui, ouais. Mais c'est vrai que c'était un petit peu long.
Ben nous, on est parti manger, on n'en pouvait plus. On n'a même pas profité du cocktail. Alors, on a un petit fil rouge pour cette spéciale Cannes. Donc, on va te poser des petites questions liées au festival. Donc, pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu de société ou cinéma ?
Un peu les deux quand même, surtout jeu de société quand même.
Plutôt bière ou champagne ?
Bière.
Plutôt camping ou Martinez ?
Camping.
Plutôt off ou dodo ?
Off.
Plutôt salon ou festival ?
Festival. Un peu les deux, en fait, pour moi, vu mon job, mais bon, j'aime bien que ce soit un festival.
Et plutôt pro ou plutôt perso ?
Non, pro, malheureusement, de temps en temps. C'est pas mal aussi, mais quand même.
T'arrives un peu à jouer pour toi ou pas du tout ?
Oh non.
C'est inenvisageable ? Non,
non. Moi, le soir, en off, si, il y a des moments quand même. Il y a des moments. Et puis, si, quand on monte des prototypes, bon, il y en a qui sont tellement avancés que c'est quand même des chouettes parties.
Oui. Donc, tu peux le casser déjà dans le jeu, la vraie partie de jeu de société.
Oui.
Donc, maintenant, on va s'intéresser à Nuts Publishing que tu viens représenter aujourd'hui. Donc, donc tu es Florent Coupeau. Tu as fondé Nuts Publishing en 2011. Mmh. Vous êtes basé à Rennes. Et, initialement, vous êtes plutôt dans le domaine du wargame. C'est plutôt votre origine. Et on a vu beaucoup de jeux de sortir de vous dans les derniers mois. Donc, avec peut-être une diversification. Donc, tu vas nous parler de tout ça. Donc, je te laisse présenter un peu l'équipe de Nuts Publishing.
D'accord. Alors en fait, on est une toute petite équipe, hein, c'est ce que les gens pourraient croire. Moi, je suis le seul salarié. Après, on est 5 en tout. Et il y a une myriade de copains, freelance, d'autres personnes qui nous aident à droite à gauche. La société était basée à Rennes, mais elle est basée désormais à Quimper, comme Bombix et Monolith. Enfin, Monolith sont un petit peu partout, mais voilà, il y en a aussi une partie à Quimper. On a commencé par du wargame en 2011, hein, nos propres créations. On continue toujours le wargame, donc avec des petits hexagones et des petits pions. C'est une partie de maintenant notre élargissement aux jeux de plateau, où on a dans les jeux de plateau majoritairement des jeux experts, où on a sorti Australia, la Traque de l'Anneau et autres. Mmh. On a fait One Deck Dungeon, c'était notre premier jeu de plateau, qui a très bien marché. Et en fait, un peu par hasard, on a joué aussi à Red Seven du même éditeur. Et malgré que ce soit très très différent, parce qu'il y a 49 cartes et que ce soit un tout petit format et tout, on a trouvé ça tellement malin qu'on s'est dit, bon, ben, on va créer des gammes maintenant et on va sortir juste ce jeu-là dans la gamme famille.
D'accord. Donc on va revenir donc un peu dans l'historique. Donc le wargame, c'est parce que vous avez une passion de l'histoire aussi.
Oui.
C'est ce que j'avais cru comprendre, que c'était aussi cette passion de l'histoire qui fait que tu t'intéresses à des batailles et que t'as envie de pouvoir donner aux gens l'opportunité de ressentir un peu les sensations de stratégie, les sensations de bataille, ces moments un peu épiques.
Tout à fait. Et en fait, à la base, moi, je suis créateur de jeux et des créateurs de wargame. Et en fait, il y a une chose qui est assez différente de beaucoup de jeux de plateau. C'est qu'en fait, un wargame, on commence toujours par le thème. On se dit, il y a telle guerre, telle bataille, tel événement historique. Et je veux en faire un jeu. Donc, je vais créer le système de jeu pour
accompagner,
pour qu'il colle au thème historique. Alors que, typiquement, un jeu à l'allemande, ça va être, on crée un système de jeu et on se dit, qu'est-ce que je peux coller dessus?
On trouve une mécanique on invente la mécanique et on trouve une thématique qui rentre.
Ça, dans un wargame à hexagone et pion, ça arrive jamais.
Et toi, c'est ta pédance pour l'histoire? T'as une période historique préférée, justement, que t'as voulu mettre en avant un petit peu ou?
Alors.
Dans tes wargames?
personnellement, dans ce que je crée moi, je pense que j'ai jamais fait de jeu sur l'Antiquité ou le Napoléonien. J'aime toutes les périodes historiques, peu importe. Après, j'aime bien les périodes un peu exotiques. Donc, ma période préférée, c'est le 16e et le 17e. Le problème, c'est que c'est ce qui vend le moins. Donc, bon, j'ai la chance de faire publier mes jeux dans un magazine qui s'appelle Vaevictis et qui, voilà, peut publier ce genre de jeux grâce aux abonnés. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Et pour avoir une idée un peu, les chiffres de vente, un Wargame, ça se vend à combien d'exemplaires à peu près?
1000-1500 exemplaires monde. Après, quand on est un gros éditeur américain comme GMT Games, ça va aller de 3 à 5000.
D'accord. Et du coup, le prix de vente moyen, c'est pour avoir une idée un peu de la rentabilité.
Les prix de vente sont plus élevés,
ouais,
clairement.
Qu'un jeu de société classique. Ouais,
à matériel équivalent.
D'accord.
Ça va être en plus, les Américains ont beaucoup augmenté leur prix. En dehors du prix des frais de port, hein. Ça va être souvent les jeux de GMT sont fabriqués en Chine, donc un peu moins cher, on va dire, ça doit tourner à 60€, 70€, alors qu'il y en a d'autres américains qui font fabriquer aux États-Unis, ça commence à dépasser sérieusement les 100€. 100€ dans le jeu de plateau, on a plein de figurines, on a tout un tas de matériel, c'est pas vrai dans le monde du wargame.
Donc du coup, vu ces chiffres, ça veut dire que il faut être un éditeur spécialisé en wargame, avoir beaucoup de titres pour pouvoir survivre.
Oui, alors si on prend GMT par exemple, il sort beaucoup de wargame, mais en fait toutes leurs meilleures ventes viennent d'autres choses.
Oui,
des jeux de plateau.
Oui,
comme Twilight Struggle, Dominion Species, oui, et d'autres. Battle Line qui est devenu Shotten Totten. Mm-hmm. Voilà, c'est ça qui fait leur grande vente.
Donc tu veux dire qu'en fait, se lancer quand tu es éditeur de wargame, avoir une branche jeu de société, c'est aussi un moyen de financer le wargame que tu as envie de faire.
C'est exactement pour ça qu'on s'est lancé dans le jeu de plateau. C'est-à-dire que on aimait aussi le jeu de plateau.
Oui.
Voilà, parce que y a pas que le wargame dans la vie, mais c'est une manière de réussir à en vivre et aussi ponctuellement d'améliorer aussi le matériel des wargames. Notamment, par exemple, typiquement dans tous les wargames old school, ça va être une feuille de papier un petit peu cartonnée. Et en fait, de plus en plus, même les jeux en wargame essayent de passer en carte montée 2 mm. C'est pas le cas pour tous, mais beaucoup.
C'est à cause de la concurrence entre guillemets du jeu de société. Tu penses que le matériel essaye de monter en gamme comme ça?
Un petit peu, parce que par exemple pour GMT, quand on voit qu'ils vendent 125 000 copies de Twilight Struggle avec un matériel toujours amélioré, tout d'un coup, quand le joueur de wargame même qui est très très habitué à son matériel des années 80, il se dit quand même que voilà, ça serait bien si son wargame était un petit peu mieux. Maintenant, vu les seuils de rentabilité, c'est pas très souvent possible.
Alors si on revient un peu à notre publishing, oui, un peu plus en particulier, je crois qu'on vous a vu arriver un peu plus sur le devant de la scène entre guillemets, en tout cas pour nous joueurs de jeux de société,
oui,
et pas forcément de wargame, avec un jeu qui s'appelait Urban Operation, c'est ça? C'était en
2017.
Sorti, ouais. Alors ça, c'était le premier gros projet que vous avez développé, c'est exact?
Oh non, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'en fait c'était le quatrième wargame qu'on sortait.
D'accord.
Celui-là a dû durer en développement 3 ans parce qu'il y a 4 campagnes, 16 scénarios, enfin vraiment quelque chose de gros. C'est clairement un wargame parce que voilà, il y a des hexagones, du mouvement caché, des choses comme ça. C'est notre plus gros succès à ce jour en wargame, je sais pas. Et donc c'est vrai que oui, ça nous a fait connaître étonnamment d'un public aussi de joueurs de plateau, alors que clairement c'est en fait ce qu'on appelle un serious game.
Ouais.
Donc en fait, l'armée française nous en a acheté des exemplaires, les Suisses, les Suédois, voilà. Après, la vaste majorité ont été achetés par des joueurs.
C'était le public que vous visiez, de pouvoir vendre ça justement.
On visait les deux.
Oui, d'accord.
Et ça a marché. Okay. On a réussi à avoir.
Très bien.
Les deux.
Oui, voilà. On a cru comprendre, oui, qu'il y avait à peu près 20% des ventes qui avaient été faites auprès de l'armée, en fait.
Je sais plus quel est le pourcentage. C'est peut-être inférieur à ça quand même, mais oui. Et puis là, on est en pour parler avec les Marines américains, qui sont une armée dans l'armée américaine. Donc parce que ça peut paraître bizarre à ceux qui vont nous écouter, mais en fait Urban Operations a été créé à la base par un officier de l'armée française spécialisé dans le combat urbain. Et en fait, lui, il l'avait conçu au début comme un outil pédagogique. Et en fait, un jour, il s'est dit, oh ben après tout, ça peut être aussi un minimum ludique. Et donc nous, notre rôle a été de le rendre vraiment ludique.
Oui, de passer à la gamification, ce qu'on appelle la gamification, c'est vraiment voilà de donner le côté plaisir de jouer.
Exactement.
Et pas uniquement de réflexion, pédagogie, enfin de et d'exercice en fait, de passer de l'exercice au plaisir.
C'est ça.
Que pour le joueur, ce soit ressenti comme du plaisir.
Oui. Et bon, apparemment, on a assez réussi notre coup cette fois-là, mais bon, c'est quand même un gros projet.
Du coup, là, ce serait une commande carrément de l'armée américaine
ou... On va voir. Ça serait une grosse commande, sauf que les circuits sont assez longs, moins longs qu'en France, mais quand même. Donc bon, ça risque de pas aboutir, hein, faut pas non plus.
C'est déjà une reconnaissance d'être contacté comme ça. Je pense que ça fait.
Tout à fait.
Donc du coup, bah, là après, on va repasser à la phase où vous avez vraiment développé des jeux de plateau que nous on connaît beaucoup mieux.
Oui. Alors, par quoi vous avez commencé ? Après, j'ai cru comprendre que vous aviez fait plusieurs campagnes Kickstarter en collaboration avec des Anglais, je crois.
Oui. Alors, on a dans l'ordre, on a dû. J'essaie de me souvenir.
J'ai quelques notes si ça peut t'aider.
On a fait un premier Kickstarter sur l'ombre de Guildforce. Avec la société Tristan Hall, All or Nothing Production, qui a été un assez bon succès au final. Les joueurs ont adhéré à la campagne. Ensuite, on a dû faire La Grande Guerre, qui pour le coup donc est la suite de Mémoire 44, version Première Guerre mondiale.
Oui, c'est le système toujours Commands and Colors, quoi, de Richard Borg.
Voilà. Un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un paquet de cartes combat en plus, mais qui apporte aussi un peu plus de richesse. À l'ensemble. On a fait la campagne de D-Day Dice.
Oui.
Là, qui pour le coup a été un gros succès. Et là, à ce moment-là, pour Cannes de l'année dernière, on a sorti One Deck Dungeon. Là, une localisation américaine d'Asmadi Games. Et donc, cette année, on sort le standalone extension Forêt des Ombres à la suite. Et
qui a beaucoup, enfin, qui a quand même eu un bon succès, qui a bien buzzé.
Tout à fait.
Et quand tu fais des localisations comme ça, comment tu trouves les jeux à localiser? Enfin, comment on fait? Parce que on voit bien dans le football, par exemple, on a du scouting, donc on envoie des gens un peu dans tous les pays, regarder tous les matchs pour trouver des joueurs. Et dans le monde du jeu de société, je pense que pour démarrer la localisation, c'est un aspect pratique parce que ça permet aussi de se faire la main en tant qu'éditeur.
Oui.
On en avait parlé beaucoup avec Pixie Game qui font beaucoup de localisation. Donc, comment on trouve les jeux à localiser? Je peux pas dire que t'as pas un mec dans tous les pays du monde pour faire tous les festivals.
Non, et puis, de toute façon, c'est vrai que Pixie sort beaucoup de jeux par an. Nous, on en sort beaucoup moins. On en sort quand même beaucoup. On va réduire un peu la voilure parce que on en sort vraiment beaucoup. C'est un peu de tout. C'est des copains qui nous parlent de jeux, des éditeurs avec qui on travaille déjà qui nous proposent des jeux. C'est des Kickstarter qu'on voit. C'est vraiment beaucoup de choses différentes.
C'est créer des contacts à l'international aussi.
Oui. Ben tous les leviers sont bons. Après, c'est vrai que nous, quoi qu'il arrive, on joue systématiquement à tous les jeux qu'on localise, quitte à passer à côté d'une pépite. Voilà. De toute façon, on n'a pas la structure pour sortir tout ce qu'on aimerait faire. Donc voilà. On joue systématiquement à ce qu'on sort.
Les éditeurs que vous contactez pour faire des localisations, est-ce que c'est plus particulièrement des éditeurs qui font aussi du wargame ou pas du tout en fait?
Non, il y a tout. De toute façon, des éditeurs qui font du wargame, il y en a pas 150 000. Et le problème, c'est vu ce qu'on a parlé des seuils de rentabilité, soit on le sort en anglais, voire en français, soit c'est pas rentable. Donc, c'est quasiment systématiquement des gens qui font du jeu de plateau. Après, il y a des exceptions pour, par exemple, des gens comme GMT qui font les deux.
Oui.
Voilà. Mais bon, pour la partie wargame, ça arrive jamais.
D'accord.
Donc si on reprend sur la localisation, on a parlé de One Deck Dungeon. Depuis, il y a eu d'autres jeux qui sont que vous avez publiés en France. Donc on a noté l'Expédition Perdue qui est sortie récemment.
Ouais, début janvier. Ouais.
Voilà, moi j'y ai joué 2 jours avant Cannes, tu vois, c'est quelle conscience professionnelle. Hein. Et voilà, très chouette, très original, j'ai trouvé à titre perso.
Ouais.
Vous avez sorti Australia. Alors là, on n'est pas du tout non plus dans le même type de jeu. Un jeu avec un nom prestigieux, Martin Wallace, qui fait toujours vibrer le cœur des joueurs, avec un thème Lovecraftien. Ouais. Mais un jeu de gestion quand même.
Alors en fait c'est un jeu hybride, hein, je pense, parce que justement en fait ça commence en première partie comme un jeu de pose de rail, de gestion de ressources, et en fait la deuxième partie quand les grands anciens se réveillent, là ça devient quand même beaucoup plus wargame, où voilà, on a des unités militaires et il faut taper sur la tête des grands anciens, ou les grands anciens nous tapent dessus principalement. Donc c'est un peu des deux pour le coup.
Et vous avez sorti la Traque de l'Anneau.
Oui.
Alors là, on est encore dans un autre univers, jeu coopératif qui est d'auteur italien. Donc on va aller quand même les citer. Francesco Nepitello, Marco Maggi, Gabriele Mari, qui est la suite d'autres jeux qu'ils avaient fait sur la même thématique, me semble-t-il, du Seigneur des Anneaux.
Oui. Alors, ils sont trois. Le premier, c'est en fait celui qui a fait les lettres de Whitechapel.
Oui.
Donc voilà, qui a eu son petit succès et voilà que je pense que les joueurs connaissent. Et les deux autres en fait sont les créateurs de la Guerre de l'Anneau. Et donc ils sont associés pour en fait entre guillemets que les deux derniers que j'ai cités apportent une caution sur le monde du Seigneur des Anneaux.
Le respect du lore. Et
voilà. Oui. Et puis le premier, sa mécanique de mouvement caché de Frodon à travers les terres du milieu. Voilà. Et donc la question que vous allez peut-être me poser, ou qu'en tout cas les joueurs vont se poser, c'est qu'en fait on va ressortir ouais. la Guerre de l'Anneau. Donc là, on termine les derniers devis pour savoir comment gérer un peu notre affaire, parce que c'est quand même un gros projet pour notre petite société. Donc je pense que on va le sortir, ça c'est certain. On va sortir une version normale boutique, c'est certain. Maintenant, la dernière petite question qu'on a, c'est comment on va financer et à combien une version de luxe, parce qu'en fait on a l'opportunité, contrairement aux Allemands et aux Espagnols, de sortir une version largement améliorée de la boîte de base. Bon, on va voir comment ça se boutique, c'est pas encore tout à fait calé, mais je pense qu'en mai-juin on devrait savoir tous les paramètres définitifs.
Est-ce que vous vous posez la question pour une édition de luxe comme ça de faire une campagne de financement participatif par exemple?
Oui, alors en fait, nous, de par le financement de nos wargames, on a un site marchand et qui fait des précommandes déjà, parce que c'est le système, par exemple, de GMT, de P500.
Oui, bien
sûr. Ça, depuis 2011, c'est comme ça qu'on finance nos wargames. Donc là, je pense que l'idée serait probablement de faire la même chose avec cette version de luxe. Ce serait pas une version complètement anniversaire comme Ares a pu sortir, parce que c'est un coût faramineux. Je crois que ils ont fait 2000 copies d'une énorme boîte anniversaire. Et à l'intérieur, il y avait, je ne sais plus combien il y a de figurines, 200, 220, quelque chose comme ça. Et elles étaient toutes peintes à la main. Et en fait, donc vous faites le calcul. Hein,
c'est 2000... super de luxe. Là.
2000 par 220, ça fait beaucoup de figurines.
Ouais.
Et
wow.
Les Chinois ont mis 9 mois à tout peindre. Et en fait, le coût est juste gigantesque. Donc malheureusement, ça j'en suis sûr, il n'y aura pas de figurines peintes dans notre version de luxe. Parce que c'est juste impossible pour nous. Pour juste une version française.
D'accord. C'est pas grave. Les joueurs sortiront leurs pinceaux.
Ah oui, je suis désolé. Mais voilà, il y a à un moment, malheureusement, notre passion du jeu est rattrapée par la logique financière. Et là, ça fait beaucoup, beaucoup.
J'avais noté aussi que j'ai vu quelque part, peut-être sur votre site ou un forum, je ne sais plus, vous comptiez faire une localisation du jeu Catacombs. Alors, je sais pas si les auditeurs le connaissent. C'est en fait un jeu de Pichenet avec des illustrations de Quan Chang Moria, auquel je suis très sensible personnellement. Un jeu de Aaron West, Mark Kelsey et Ryan Amos. Ça devait sortir l'an dernier, mais il est pas encore à votre catalogue, ou je fais erreur?
Ah non, il n'est pas encore dans notre catalogue, parce que l'éditeur canadien Elzra Game a un peu de retard sur pas mal de ses projets.
D'accord.
Donc il en a plein, mais bon, ça a du mal à sortir, voilà. Donc normalement, je devrais avoir une conversation avec lui la semaine prochaine, et on va essayer de sortir pour la fin d'année. Alors bon, vu les délais, je pense début d'année prochaine. Catacomb Conquest.
D'accord.
Qui est en fait le même principe de PitchNet que Catacomb, mais en version familiale.
D'accord.
Et en fait, on démarrera par ça pour ensuite passer sur la grosse version de Catacomb, qui là, pour le coup, il y a un jeu expert, une grosse boîte.
Oui, ce qui est d'ailleurs un peu surprenant pour quand on dit un jeu de PitchNet et on met jeu expert en même temps, on se dit ça va pas bien ensemble.
Ouais. Ah, et pourtant ça a été un gros succès et ça marche très bien, c'est très immersif et tout. Mais voilà, pour nous, ça nous paraît un peu dangereux pour juste une version française de démarrer par une énorme boîte, surtout que là, il a lancé un Kickstarter il y a quelques mois où il rajoute en fait des tapis de jeu dans la boîte. Donc la boîte est encore plus grosse, encore plus chère. Et démarrer par ça en France.
Donc du coup, avec la version Conquest, vous pourrez juger de l'intérêt du public. Voilà. Et puis, tout cas, c'est dans les tuyaux.
Oui,
c'est une bonne nouvelle. Et on en arrive à l'actualité, je dirais, brûlante.
Canoise.
Votre dernière sortie, je crois, qui est encore une localisation. Le jeu Subterra. Subterra, et je crois que je vois ici sur la table, il y a même une extension.
Oui.
Alors, tu peux nous dire un petit peu de quoi il retourne?
Alors, Subterra, c'est une localisation de la société ITB, Inside the Box, et c'est un jeu qu'on a découvert...
C'est un jeu de Tim Pinder, c'est ça ?
Oui, j'avoue, je me souviens plus forcément du...
Je le vois sur la boîte, c'est ça.
Oui, vous avez les boîtes du bon côté.
Oui, on...
C'est ça.
En fait, on l'a découvert il y a... un an, à Noël 2017, et ça a mis un peu de temps à sortir, parce que nous, on a envoyé nos fichiers en 2 mois, et tout d'un coup, on a eu un trou de 6 mois où on n'a plus entendu parler d'ITB, donc on s'est un peu inquiété, et puis hop, les fichiers sont sortis, et donc là, pour Cannes, on a tous les jeux, et donc l'extension Investigation est la première à sortir en même temps que le jeu de base, et ce que j'ai pas amené, c'est les figurines, il y a des petites figurines pour le jeu de base aussi, parce que c'est un jeu coopératif.
D'accord.
Des explorateurs sont perdus, enfin coincés sous terre, et doivent réussir à trouver la sortie. Et donc en fait, chaque joueur a un certain nombre d'actions spécifiques à lui et un certain nombre d'actions communes à tout le monde. Et donc ils vont se mettre à explorer, à poser donc des tuiles au fur et à mesure. Des fois, ça va être juste de l'exploration d'un boyau tout tranquille. Et des fois, il va y avoir un peu de gaz, un risque d'éboulement et aussi des horreurs qui sont un peu le temps qui passe aussi, parce que il va y avoir de plus en plus d'horreurs à arriver, à essayer de croquer les explorateurs. Donc il va falloir se trouver la sortie très très vite.
Voilà. C'est super inspiré par, il y avait un film comme ça, qui passe de Descent ou quelque chose comme ça.
Oui. Le thème
de spéléologue coincé sous terre.
Ouais. Et donc, Investigation derrière rajoute un personnage, et après, il y a un pitch, un fil conducteur dans les extensions, parce qu'il y en aura 2 autres. Investigation, donc, en fait, les explorateurs ont réussi à ressortir. Ils vont retourner, ou une autre équipe va retourner dans les boyaux et vont essayer de retrouver leurs compagnons. L'autre extension qui sortira dans 2 mois, Extraction, là, il va falloir prendre des échantillons biologiques des monstres. Et dans la troisième, Annihilation, là, on sent que ça commence à devenir hors de contrôle et on fait tout péter pour ne plus en entendre parler.
D'accord, donc des missions de plus en plus difficiles, voilà, pour les joueurs. Je vois sur la boîte, c'est de 1 à 6 joueurs, c'est ça ? Donc il y a un mode solo, ça veut dire.
Ouais.
Je vois 60 minutes coopératif, donc on l'a dit. Quel est le niveau de difficulté à peu près ? Tu dirais que ça reste quand même du familial ou faut déjà... par rapport à un pandémie, par exemple, où là, visiblement, il y a un peu plus de choses à faire que dans un pandémie, puisqu'il y a de l'exploration en plus.
Ouais. Oh, c'est pas très très compliqué quand même. Alors après, je suis peut-être pas le meilleur pour juger de la difficulté des jeux, mais non, c'est pas les actions. Alors les actions de base, il y en a pas beaucoup. Par contre, c'est les actions spécifiques qui sont importantes et la coopération entre les joueurs. Donc, dire que c'est familial, c'est peut-être un peu trop bas.
Oui, c'est familial plus.
Ouais, c'est un tout petit peu plus compliqué que familial.
Voilà, l'appellation à la mode en ce moment.
Ouais.
Celle qui réconcilie tout le monde.
Exactement.
On a aussi entendu parler, donc on n'a pas parlé de Red Seven, donc un jeu de cartes dont tu l'as évoqué, mais qui a bien marché. Et on a entendu qu'il y avait peut-être une version bretonne. Alors je ne sais pas si j'ai rêvé en disant ça ou si c'était une blague.
Non, c'est pas une blague. Je suis breton et je parle breton. Donc Oui, en fait, on a la possibilité, quand on va retirer Red 7, de... En fait, un peu... c'est... Quand j'ai fait ma première partie de Red 7, je me suis dit que c'était un outil qui était très bien pour apprendre le breton. Parce qu'en fait, sur les cartes, il y a juste un chiffre, une couleur et une condition de victoire. Donc en fait, apprendre les couleurs, pour apprendre les chiffres, les conditions de victoire, à la limite, comme elles sont marquées dessus, même un débutant en fait n'a qu'à lire ce qui est marqué dessus, c'était pas très compliqué. Et qu'en fait, ça pouvait aussi devenir un outil pédagogique pour apprendre une langue. Et là, je parle du breton, mais à peu près mais n'importe quelle langue.
Oui, après, tu peux le décliner, ouais.
Donc en fait, voilà, j'habite à Quimper, j'ai la possibilité de le faire traduire, relire et tout, et ça, c'est pas un souci. Donc, quand j'ai demandé la licence... un peu bizarrement, je me suis dit, oh ben je vais prendre français et le breton, ça vous dirait pas de l'inclure dans le contrat? Et je me souviens encore qu'elle m'a dit quoi? Ah si, mais si, c'est proche du gallois. Vu ton nom, ta famille vient du pays de Galles, peut-être il y a 5 générations. Mais elle me dit, oh ben d'accord, pourquoi pas. Donc voilà, on va essayer de le faire au prochain tirage.
Et par curiosité, du coup, il y en a d'autres des jeux qui sortent en breton, enfin c'est fréquent ou c'est très anecdotique?
Ah, oui, c'est anecdotique, mais il y en a quelques-uns quand même. Il y a en breton pur un vrai jeu de société. Il y a Rouébrez, donc qui veut dire les rois bretons. Parce qu'il y a eu des rois en Bretagne, croyez-moi ou pas, mais c'est vrai. Et après, par-ci par-là, alors il y a des groupes, je sais qu'à Saint-Brieuc, il y a des groupes de joueurs qui se réunissent et qui font des jeux où ils doivent parler breton.
D'accord.
Voilà, c'est une manière de s'entraîner.
De communiquer, à pratiquer.
Oui, tout à fait.
Ok.
Voilà, donc c'est pas totalement une blague. Après, bon, c'est pas encore fait, mais la traduction est terminée.
Oui, donc c'est...
Là, c'est en relecture.
D'accord.
Et voilà, c'est un vrai projet.
D'accord.
Bon, on arrive doucement à la fin.
Oui, j'allais demander quand même à Florent si il pouvait nous dire 2-3 mots sur les projets qui sont dans les tuyaux pour Nuts Publishing. Alors, on a parlé de Catacombs Conquest qui arrivera fin de cette année ou début de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les tuyaux?
La guerre de l'anneau. Que j'ai évoqué. Alors là, pour le coup, comme c'est un gros projet, quasiment toutes les traductions. Alors on est reparti de zéro et on a refait toutes les traductions. On n'a pas utilisé celle de Tilsit ou d'Asmodée. Et donc en fait, on a là, c'est pareil. Le projet lui-même va démarrer en financement participatif probablement avant l'été. Par contre, en termes de production et d'arrivée véritable dans les mains, il faudra attendre 2020 très probablement. Ensuite, avant l'été, on va avoir Palm Island qui va sortir probablement mai-juin. Donc c'est un petit jeu de construction de village où tout se passe dans la main.
Ouais.
Donc, en fait, c'est un jeu de mots en anglais où Palm Island, palme, ça veut dire palmier,
mais ça veut aussi dire la paume de la main.
Ouais. Voilà. Donc on n'a pas encore trouvé de jeu de mots en français pour faire pareil. Donc Donc ça restera probablement Palm Island. Bon, on verra.
D'accord.
Et sinon, il y a l'ombre de Guildforce qui va arriver pour le coup chez les joueurs en mai. Vous pouvez aller voir notre blog pour voir tous les problèmes qu'on a pu avoir avec avec la merveilleuse société anglaise qui était notre partenaire. Donc déjà, ça avant l'été, ce sera déjà pas mal. On va se lancer un Kickstarter là pour le coup seul. Enfin seul. On aura d'autres partenaires, mais nous en tant que leader en avril. Saigon 75, donc un Warto. Warto, c'est à moitié jeu de plateau, à moitié wargame, donc un petit peu plus léger, parti en une heure. Et en septembre, on va lancer un autre Kickstarter sur un jeu qui s'appelle Mini Rogue, qui a gagné un concours de sur Board Game Geek il y a 2 ans. Et donc on a redéveloppé le jeu, on l'a de 9 cartes qu'il était au début, on est passé à 20. Donc c'est un petit dungeon crawler en 20 cartes.
Donc là du coup c'est de l'édition propre et plus seulement de la localisation.
Tout à fait. Ouais. Donc il y en aura de plus en plus, on va essayer de se recentrer aussi, faire un petit peu moins de localisation qu'on veut toujours faire, un petit peu plus de création.
En propre.
Voilà.
Mais écoute, en tout cas, Florent, on te remercie beaucoup de t'être levé de bon matin pour nous faire démarrer cette session d'interview.
C'est le café.
Et puis, écoute, moi, j'aimerais bien venir jouer à Australia, à titre personnel, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Donc, je vais essayer de trouver un moment cet après-midi pour venir.
Pareil.
D'accord. Alors,
donc, merci encore.
Merci
et puis,
à vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. N'hésitez pas à tipper. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.